Donc ma communication, elle a deux titres, elle a un gros titre pour les ateliers du genre qui axent sur les perspectives féministes. Donc je l'ai appelé Perspectives féministes sur la lesboparentalité, ce qui est en fait mon chapitre de problématisation de thèse et son titre, mais j'avais pas fait le lien tout de suite. Et le sous-titre, on va dire, ce sur quoi je vais axer plus précisément ma communication aujourd'hui, qui est en fait vraiment sur des extraits d'enquête. J'ai pas du tout fait une communication théorique, donc si à un moment il peut y avoir des... Peut-être c'est pas assez explicite théoriquement, on pourra en reparler, je pourrais repréciser des choses. Donc le sous-titre, c'est plutôt sur qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère lesbienne, une bonne mère entre guillemets bien sûr, parce que c'est une expression qui est normative. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère lesbienne en pleine controverse sur le mariage pour tous et toutes, qui est le moment... autour duquel, on va dire, j'ai fait mon enquête de thèse. Donc cette communication, elle vise à examiner plus précisément la notion de normativité lesboparentale, et elle est basée sur les résultats de l'enquête que j'ai menée pour ma thèse de sociologie et qui a été soutenue en 2018. Alors, qu'est-ce que c'est une perspective féministe sur la lesboparentalité? Donc la manière dont moi je l'ai tournée, on va dire, c'est que il s'agit de situer les lesbiennes dans une société sexiste et hétéronormative, donc c'est-à-dire comme des personnes dominées par un régime de discrimination, de domination. Mais pas seulement, c'est-à-dire il s'agit pas seulement de les positionner comme des personnes dominées, mais aussi, comme le propose Monique Wittig, qui est une auteure féministe des années 70, une auteure française, de proposer aussi de présenter leur position dans la société comme des transfuges de la classe des femmes, dans la mesure où elles échappent à l'appropriation privée par un homme, c'est-à-dire au sein de leur foyer, au sein de leur couple, de leur famille réduite, on va dire. Elles ne sont pas dans un cadre d'exploitation directe par un homme. Pour autant, elles n'échappent pas à l'appropriation collective par les hommes dans la société. Donc on peut dire qu'elles ont une position comme ça, on va dire complexe. Et dans cette logique, ce qui a été ma démarche, c'est de se demander dans quelle mesure une famille qui est fondée par une femme lesbienne ou alors un couple de lesbiennes remet en cause la structure patriarcale de la famille. Et ça, c'est parce que je me place dans une perspective de changement social vers l'émancipation. C'est-à-dire la question de la maternité lesbienne comme soit une réassignation à la maternité, donc quelque chose qui serait au contraire les ramener à une position de femme dominée, ou au contraire quelque chose qui va au-delà des interdictions pour les personnes homosexuelles d'avoir des enfants, ça c'est une controverse qui existe au sein des milieux militants. Depuis les années 60 aux États-Unis. Donc c'est pas pour trancher ça, mais moi ce que j'ai choisi d'examiner, c'était plutôt d'essayer de voir voilà, quel changement social ça pouvait apporter éventuellement l'idée de les pratiques au sein d'une maternité lesbienne. Donc ma recherche, qui est une recherche qualitative, elle s'attache à répondre à la question suivante. En France, dans une société hétéronormative à domination masculine, quelles représentations les mères lesbiennes ont-elles des normes du genre et de la socialisation de genre de leurs enfants? Ça m'a permis de poser deux hypothèses. Enfin, d'abord, une première hypothèse qui est basée sur la théorie que je viens de vous expliquer, sur la position de à la fois dominée et transfuge de classe des lesbiennes, c'est de dire que les spécificités de la socialisation des lesbiennes et de la vie en famille lesboparentale prédisposent les mères lesbiennes à avoir et à transmettre une approche critique des normes du genre. C'est une hypothèse, ça veut dire que ça, c'est ce que je pose et je vais examiner mon matériau à partir de cette hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est une affirmation, c'est voilà, c'est une hypothèse de travail théorique. J'ai posé une deuxième hypothèse en cours de travail, on va le voir après, parce que le contexte dans lequel j'ai fait mon enquête m'a apporté, enfin, et donc ce qui intéressait les personnes que j'ai interrogées au moment de l'enquête, c'était un peu différent de ce que j'avais envisagé. Et donc, j'ai une hypothèse inductive. Inductive, c'est-à-dire qu'elle vient du terrain, donc c'est ça, qui est qu'en fait, le contexte politique au moment de mon enquête ne permettait pas aux mères lesbiennes d'avoir des discours et des pratiques revendiquant publiquement l'opposition aux normes du genre. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai annoncé, j'étais à la recherche du potentiel de changement social, et ce que m'a renvoyé le terrain, c'était plutôt des limitations sur les possibilités de changement social au moment de l'enquête. Donc, dans le cadre de cette enquête, j'ai fait 36 entretiens semi-directifs longs, qui ont été réalisés entre 2011 et 2014, avec des femmes lesbiennes ayant des enfants de moins de 12 ans, conçus en contexte homoparental. Voilà, donc j'ajoute que les femmes que j'ai rencontrées, elles sont pour la plupart éloignées des milieux militants. Elles sont minoritaires à revendiquer ouvertement lors des entretiens une politisation des questions de genre et de sexualité. Mais ça ne veut pas dire que leurs discours et leurs pratiques sont apolitiques, simplement elles n'avaient pas une approche politisée des questions de genre et de sexualité. C'est important de savoir que les femmes que j'ai enquêtées, elles font quand même partie des milieux sociaux moyens et supérieurs, pour la quasi-totalité d'entre elles. Elles sont blanches. Voilà, 35 personnes sur 36, donc une seule personne non blanche. Elles sont cisgenres, donc j'ai 35 personnes cisgenres sur 36. Et voilà, et je pourrais ajouter aussi qu'elles sont, elles sont diplômées. Elles sont pour la plupart, elles ont fait des études universitaires. Et même, on peut dire pour mes enquêtées, elles sont les enquêtées, les personnes que j'ai enquêtées, mes enquêtées, elles sont même très diplômées. Elles ont souvent un bac plus 5 et j'ai quand même une grande partie d'entre elles qui ont même un doctorat. C'est pour dire que voilà, bon, c'est des personnes qui appartiennent à des milieux très, très spécifiques. Ok. Alors, le contexte général, on va dire français à ce moment-là, c'est ce que Camille Ropkiss a appelé un contrat social républicain familialiste. C'est-à-dire que la société française, elle a tendance à avoir des injonctions tournées vers les familles hétérosexuelles, de les encourager. Enfin, la société est fondée beaucoup sur des normes et des valeurs qui correspondent aux familles hétérosexuelles et qui les encouragent. Ça, oui, c'est un peu... c'est plus complexe que ça, mais... cependant, depuis les années 70 et les mouvements militants homosexuels et féministes des années 70, et grâce aussi aux techniques de reproduction assistée qui se sont améliorées, donc tout ce qui est lié à la PMA, par exemple, on assiste, donc il y a plus de familles homoparentales que dans les années 70, hein, les personnes homosexuelles font plus souvent des enfants dans un cadre homosexuel, c'est-à-dire les personnes homosexuelles pouvaient avoir des enfants avant, mais souvent dans des cadres d'abord hétéros. Et on observe aussi une institutionnalisation de l'homoparentalité, c'est-à-dire que petit à petit, il y a des lois qui sont votées pour encadrer officiellement plus les familles homoparentales. Donc ça a commencé un petit peu avec le PACS, même si officiellement c'était pour simplement les couples. Malgré tout, ça a été, c'était déjà pensé par les militants et militantes homosexuelles comme peut-être une première marche, on va dire, vers la filiation, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance de lien avec aussi les enfants. Et puis, il y a eu la loi du 17 mai 2013, connue sous le nom « Loi du mariage pour tous et toutes ». Et donc, cette loi-là, elle permet aux couples de même sexe de se marier, de faire des demandes d'adoption conjointe, c'est-à-dire de présenter ensemble une demande d'adoption, et aussi de faire des adoptions intraconjugales, c'est-à-dire que celui des deux parents qui n'a pas déjà le lien de filiation avec son enfant, parce que c'est à la naissance dans un couple de même sexe, enfin quand c'est les femmes, c'est toujours la mère de naissance qui a un lien de filiation avec l'enfant, mais c'est pas automatique le lien de filiation avec le deuxième parent. C'est donc possible pour la première fois depuis 2013 qu'un enfant ait un lien de filiation avec deux parents de même sexe, à condition que ces deux parents soient mariés et que celui qui n'a, le parent qui n'avait pas le lien de filiation adopte son propre enfant, d'une certaine manière, l'enfant officiellement de son conjoint ou de sa conjointe. Donc, c'est une forme d'institutionnalisation, mais qui reste encore inégalitaire et différentialiste. Donc ça, c'est le cadre général, mais au moment de mon enquête, donc 2011-2014, ce qui a marqué le contexte de l'enquête, c'est que les questions de genre et de sexualité, à ce moment-là, deviennent l'objet de controverses publiques. À travers, bon, d'abord, il y avait eu l'épisode du manuel de SVT en 2011, mais je ne vais pas revenir sur... si vous voulez, je vous y réexpliquerai. Mais... Principalement, c'est le débat public sur le mariage pour tous, on va dire, qui a beaucoup marqué cette période d'enquête. Et aussi les débats sur les lois de bioéthique. Les lois de bioéthique, elles encadrent tout un tas de choses liées à la bioéthique, mais notamment ce qui nous intéresse pour l'homoparentalité, c'est tout ce qui est lié à la procréation, à l'assistance médicale, à la procréation. Et donc elles sont révisées relativement régulièrement, à peu près tous les 10 ans. Il y a eu une révision en 2011, au moment où je commençais mon enquête. Et elles ont été révisées très très récemment, là cet été, et passé, alors que ça faisait 2 ans que, qu'on attendait, enfin que voilà, ça avait été proposé, que le Comité national de bioéthique avait proposé que la PMA soit accessible à toutes les femmes cisgenres, aux femmes seules et aux couples de femmes. Et donc ça y est, c'est passé depuis le mois d'août dernier. Là. Mais donc ça concerne pas mon enquête. Mais en tout cas, donc à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez un souvenir de cette période, le moment du mariage pour tous, mais le débat public qui a précédé la loi en 2013 a donné lieu à un immense mouvement d'opposition, principalement mené par l'association qui s'appelait la Manif pour tous, où on ne dit pas pour tous et toutes, là, du coup. Je les féminise pas. Et donc ce mouvement-là, ils ont pris stratégiquement appui sur une théorisation académique du genre, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés à ce moment-là aux études sur le genre, mais pour le dénoncer, pour les dénoncer d'une certaine manière, et réaffirmer, même pas d'une certaine manière, pour les... et pour réaffirmer en fait leur attachement à l'ordre hétérosexuel inégalitaire du genre et des sexualités. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des slogans, c'était... un papa, une maman, enfin ça c'était des slogans, enfin il y avait toute une rhétorique tout à fait homophobe mais aussi très anti-études sur le genre à ce moment-là. Et ce mouvement-là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont construit quand même dans l'opinion publique un lien abstrait entre homosexualité et dérégulation sociale. À travers l'idée que quand on ne transmet pas le genre hétérosexuel, quand les petits garçons ne sont pas élevés en petits garçons et les petites filles en petites filles, on va se retrouver dans une société anomique, c'est-à-dire dérégulée, où on ne saura plus rien faire, d'une certaine manière. Et donc, comme à ce moment-là, il y avait aussi les débats sur l'homoparentalité, ça a associé aussi dans l'esprit commun, on va dire, ils ont réussi à créer ce lien-là, qui liait symboliquement homosexualité et dérégulation sociale. Alors, mon enquête, elle révèle des tendances nouvelles dans les familles lesbo-parentales qui sont prises d'une certaine manière entre une légitimité accrue, c'est-à-dire grâce à l'institutionnalisation progressive de l'homoparentalité, c'est des familles qui sont de plus en plus légitimes et qui se vivent comme telles, mais elles sont prises entre ça et le catastrophisme des discours des opposants et des opposantes, qui alimentent au contraire une panique morale autour du devenir de la famille et qui pointent un risque d'indifférenciation des sexes. Parce que ça, c'est une critique assez commune à l'homosexualité, que ce serait toujours vouloir le même, qu'il n'y aurait plus de distinction entre les sexes. Alors, en contexte étroit avec en lien étroit avec ce contexte social hostile, les arbitrages des personnes que moi j'ai interrogées, les arbitrages que les mères font en termes de parentalité, elles se font dans l'objectif prioritaire de protection des enfants. Et elles sont marquées par le registre rhétorique de la normalisation, c'est-à-dire qu'elles visent à mettre en avant les points communs des familles homoparentales avec les normes hétérosexuelles. En effet, en plus de devoir tenir le rôle social de bonne mère, donc c'est une expression, ça se voit pas comme ça, mais je la mets toujours entre guillemets hein, dans ma tête. Donc ce rôle social de bonne mère, il a été caractérisé, selon Sandrine Garcia, par une disponibilité et un investissement psychique et temporel de la parentalité qui est source de culpabilité et de surtravail. Donc être une bonne mère, c'est essayer d'accéder voilà, à des normes quasi impossibles. Donc en plus, les mères lesbiennes, elles ont cette injonction à être des bonnes mères, comme toute mère, on va dire. Et en plus de ça, elles doivent parer le stigmate de l'homosexualité qui les vulnérabilise socialement et leurs enfants à travers elles. Du fait de l'homophobie du monde social, leurs familles, elles sont à la fois l'objet d'une stigmatisation qui peut affecter les enfants, c'est-à-dire que les enfants peuvent souffrir de cette stigmatisation, mais elles sont aussi l'objet d'une suspicion accrue qui tend à disqualifier les mères lesbiennes. Donc on va mettre en cause leur capacité à être justement des bonnes mères du fait d'être des mères lesbiennes. Et cette pression-là, cette pression sociale, ça les pousse à modérer leurs éventuelles ambitions critiques de l'ordre du genre. En tout cas, dans les discours et les pratiques de manière ouverte, mais ce que j'ai montré qui ne va peut-être pas apparaître tant que ça dans cette communication, c'est que quand elles le font, en fait, de les remettre en cause, elles le font de manière infrapolitique, donc de manière un peu camouflée, mais elles le font quand même. Donc, les pratiques subversives et ouvertement subversives, on les note plutôt à la marge, en fait. Ce qui est montré le plus, c'est plutôt les signes de points communs avec l'hétérosexualité. Et cette tension-là qu'elles vivent, elle s'illustre particulièrement dans le choix d'une famille nucléaire et d'une socialisation de genre des enfants qui donne des gages de conformité avec les attentes hétéronormatives. Et c'est ces deux exemples-là que je vais développer maintenant. Avant de me lancer, je vous montre la manière dont se décomposent les familles que j'ai interrogées, enfin les femmes qui... Il reste 10 minutes ?
Ouais, 10 bonnes minutes.
Donc, 11 familles, ce sont des couples de femmes qui ont procréé grâce à un don anonyme de sperme. 5 familles, c'est un donneur connu. Ce sont des couples de femmes avec un donneur connu. Et 3 familles seulement en coparentalité, avec à chaque fois une forme différente, mais en tout cas, il y a des pères qui sont reconnus et qui s'investissent auprès des enfants, en tant que pères. Alors, toutes les configurations lesbo-parentales, elles vont nécessairement à l'encontre de la norme hétérosexuelle, mais chaque configuration se rapproche quand même d'un de ces éléments normatifs. Les données de l'enquête, elles semblent désigner la forme du couple de mères qui a recours à un donneur anonyme comme la plus couramment choisie, mais aussi comme une norme lesbo-parentale facilement normalisable pour l'entourage. Donc c'est la forme en réalité qui est la plus couramment choisie depuis plus longtemps. Ce qui a changé, c'est qu'avant, ce qui était légitime, c'était qu'il y a un père connu. Et là, maintenant, c'est plutôt le fait de se baser sur un couple de parents et que ce soit une famille nucléaire. Dans un contexte de légitimité accrue de la maternité lesbienne et d'une plus grande expertise des mères lesbiennes sur la lesboparentalité, parce que moi, quand je fais mon enquête, il y a plein de mères qui ont lu les mêmes travaux sociologiques que moi, qu'elles connaissent le vocabulaire lié à l'homoparentalité, le vocabulaire sociologique. Elles me parlent de mères sociales. La transgression que représente l'anonymat du don de sperme, c'est-à-dire une famille sans homme, elle est estompée par la force de la norme de la famille nucléaire. Donc cette nouvelle norme lesboparentale, elle reconfigure les arguments qui président le choix des autres configurations familiales, avec donneurs connus non impliqués ou en coparentalité, qui en regard semblent plus risqués, moins faciles à présenter à l'entourage et à expliquer aux enfants, et plus transgressives. La question de la nécessité d'un modèle masculin dans l'éducation des enfants, ce qui était très discuté au début des années 2000, elle est devenue secondaire en fait dans les discours des femmes que moi je rencontre sur mon terrain. Alors parmi ces enquêtées, il y en a qui vont mettre en avant la norme de la famille nucléaire comme moteur de leur choix, elles veulent se rapprocher des normes, mais d'autres, elles la mobilisent plus comme une stratégie de présentation de la famille. et quelques-unes justifient aussi leurs arbitrages selon une volonté subversive. Donc, par exemple, je vous présente une citation d'un entretien, un extrait d'entretien avec donc Esther T., qui elle est professeure de sport dans le secondaire, mais elle est agrégée. C'est toujours le diplôme au-dessus de ce qu'elle est dans les personnes. Ouais. Alors elle dit « Je crois que j'avais envie d'avoir mon enfant, de pas le partager, si ce n'est avec ma compagne, avec qui je vis, mais au quotidien, quoi. J'avais envie de, bizarrement, fonder une famille hyper classique, en fait. On a envie ensemble, on élève des enfants, enfin le truc basique, quoi. » Donc elle, c'est une personne qui, à d'autres moments des entretiens, elle se présente comme quelqu'un qui aime se sentir décalée par rapport au consensus. Elle se présente plutôt comme rebelle. Et là, quand elle parle de son choix, elle le place vraiment dans un cadre qu'elle dit donc basique et hyper classique, et elle enfonce même le clou. Elle trouve même ça bizarre d'avoir fondé une famille si normale, d'une certaine manière. Donc là, c'est vraiment le cadre de la norme qui était recherché. Une autre manière de présenter les choses, c'est plutôt de donner des garanties de normalité. Ça semble une dimension importante des arguments avancés pour justifier la forme familiale. Aux yeux de nombreuses enquêtées qui ont choisi d'être deux mères élevant leurs enfants, il ressort que leur famille n'est pas tant normale que facilement normalisable. Donc c'est un peu comme ça que le présente Mathilde N., qui est éducatrice spécialisée. Elle dit « En fait, on voulait construire notre famille, on voulait que notre schéma familial soit assez classique finalement. Deux parents, les enfants. On est quand même des personnes assez carrées, donc je pense qu'il nous fallait quelque chose de net avec pas trop de possibilités de s'embrouiller. Avec ça, enfin comme ça au moins, c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour nous, c'est clair pour les gens qu'on a autour de nous et c'est clair pour les enfants aussi. » Donc elle, on voit bien qu'elle met à distance la transgression. Et elle, par la mise en avant d'une norme familiale hétérosexuelle, la famille nucléaire. Donc elle dit bien, elle voulait plutôt quelque chose de clair et net, qui expose la norme d'une certaine manière. Ce qui semble ici le plus redouté, c'est de s'embrouiller. Donc elle n'est pas dans la démarche qu'on pourrait qualifier de queer, de subvertir les normes. Elle est au contraire dans une stratégie d'accentuation des traits partagés avec la norme dominante. Donc ce que j'appelle une norme de normalisation, une stratégie de normalisation de la famille. Alors, pourtant, ce modèle d'une famille sans homme reste quand même transgressif, car c'est celui qui évacue le plus le géniteur, et avec lui la participation d'un homme à la conception des enfants. Dans un cadre social hétéronormatif qui dévalorise la différence des sexes, assumer de se passer des hommes, ou se présenter comme assumant ce rejet, semble une entreprise téméraire, une limite que très peu d'enquêtés s'aventurent à passer. L'argument d'une autonomie vis-à-vis des hommes est décelable de manière diffuse dans quelques rares entretiens, et seulement deux participantes le mentionnent explicitement. Dans les deux cas, elles invoquent plusieurs raisons qui guident le choix de l'IAD anonyme, l'insémination artificielle avec donneur anonyme, dont celle d'une mésentente avec les hommes en général, qui les dissuade de s'organiser avec eux, quelle que soit leur place pour construire la famille. Donc là, je vous ai présenté une citation de Manu L, qui est cadre supérieur de la fonction publique. Elle vient d'un milieu quand même social plutôt modeste. Au cours de l'entretien, elle signale plusieurs fois qu'elle a des relations conflictuelles avec les hommes et qu'elle se dispute toujours avec eux. Elle dit, donc avec Esther, sa compagne avait fait ça avant, elle avait eu une enfant avant d'être avec Manu. Donc elle avait fait ça, une IAD avec donneur anonyme pour sa première fille, et elle trouvait que c'était mieux. C'est vrai qu'on s'est dit, la situation est déjà compliquée, si on rajoute un père, ça va être compliqué. Et puis je redis ma problématique aussi avec les hommes, mais Esther aussi, ça, elle dit qu'elle ne peut pas vivre avec des hommes, et moi c'est pareil. Donc bien que mêlé à d'autres arguments, le rejet des hommes n'en est pas moins énoncé clairement. Sa compagne, à qui elle prête la même réticence, n'a pas mobilisé cet argument lors de l'entretien, ce qui, à mon sens, est un signe de la grande transgression que représente cet argument dans le cadre hétéronormatif de la famille. Donc, à titre d'hypothèse, j'avance l'explication selon laquelle donc, le contexte français dont j'ai parlé, au moment de l'enquête, il limite l'expression publique de la transgression par les mères lesbiennes. Le deuxième exemple que j'ai choisi... Je vais déborder un petit peu. Le deuxième exemple que j'ai choisi de présenter pour illustrer les choix de parentalité qui sont faits, c'est celui de la socialisation de genre et la socialisation au genre des enfants. Alors, dans mon enquête, j'appréhende la socialisation de et au genre des enfants à travers celle de l'environnement matériel qui leur est proposé. Qu'est-ce qu'on leur propose qu'est-ce qu'on propose aux enfants en termes de vêtements, de jouets, de loisirs et à quoi ressemble leur chambre. C'est comme ça que j'ai travaillé. Cette socialisation, elle semble prise entre des convictions égalitaires et du pragmatisme. Les mères sont attentives à permettre, par exemple, l'identification du sexe assigné à la naissance et de l'identité de genre des enfants par le port de vêtements sexués, et ce surtout pour les garçons. Et elles s'assurent que leurs enfants connaissent et reconnaissent les normes du genre qui régissent la société. Une mère témoigne, une mère qui est professeure d'histoire dans le secondaire, elle dit « On met des robes à notre fille pour bien montrer que c'est pas parce qu'elle a des mamans lesbiennes qu'elle a pas de robes. » C'est vrai. Même quand elle s'affirme féministe, ce qui n'est le cas que d'un tiers à peu près des personnes que j'ai interrogées, les écarts avec la norme qu'elles-mêmes vont juger trop grands, donc c'est une évaluation subtile, qu'est-ce qu'est un écart trop grand avec les normes du genre, elles évaluent ces écarts-là en termes de risque. Une mère me dit, par exemple, on ne va pas tenter le diable. C'est-à-dire, c'est un risque pour les enfants si les mères s'éloignent dans leur socialisation de genre trop des normes. Donc, par exemple, Hélène X, donc elle est géologue, dans l'entretien, elle se présente, elle, comme très féministe. Et sa démarche, c'est vraiment de chercher à contester les normes du genre pour son fils. Et elle se demande jusqu'où elle peut aller. Son fils est tout petit, hein, il a 18 mois. C'est important aussi, j'ai pas le temps de tout, mais là, il est tout petit. Donc elle me dit, par exemple, il avait une salopette que j'adorais et j'ai mis hyper longtemps à voir sur l'étiquette que c'était une salopette dans une collection pour filles, en fait. Et j'étais hyper contente. Et on a continué à lui mettre, mais quand même, le fait de le savoir, je me suis posé la question. Est-ce que si j'avais vu tout de suite l'étiquette, est-ce que j'aurais pris la salopette ou pas? J'en suis pas sûre, en fait. Donc là, elle se réjouit, en fait, d'avoir été subversive, malgré elle, parce qu'elle ne souhaite pas, elle, cantonner son fils aux vêtements masculins. Mais elle se demande si elle aurait osé faire le même choix délibérément. La subversion non délibérée, elle semble moins à charge contre elle dans son rôle de bonne mère qui doit évaluer ce qui est bon pour son enfant. Sur le terrain, ce sont les mères qui affichent les discours politiques les plus marqués qui vont aussi instaurer un filtrage plus fort des objets sexistes. Par exemple, alors Perrine G., elle est traductrice et metteuse en scène de théâtre. Et elle est en cours de thèse aussi pendant l'entretien, donc elle correspond bien aux personnes que j'ai interrogées. Et elle a milité à des moments avec ACT UP, avec l'association ACT UP à Paris. Et elle me dit, les Barbies, les choses comme ça, évidemment, les jouets ultra-genrés, ça, je voudrais pas qu'elles les aient. On avait dit ça pour les fringues aussi, on avait donné cette consigne, on avait dit pas de vêtements genrés. Mais quand elles revendiquent une critique des normes du genre, les mères, elles estiment qu'il y a des limites à respecter pour ne pas exposer les enfants et la famille. Et c'est ce qu'on va voir avec Pauline E. Donc Pauline E, elle est dans une démarche politique de contestation des normes du genre. Elle est militante dans une association homoparentale et aussi dans un collectif transpédéguine. Et elle se définit comme trans non-binaire. Et j'utilise le pronom « elle » à sa demande pour parler d'elle. Elle se dit très féministe. Elle me dit même « on ne peut pas être trop féministe » dans l'entretien. Par ailleurs, elle est assistante maternelle. Ça veut dire qu'elle garde des enfants à domicile. ce qui est un métier extrêmement considéré comme féminin. Il y a pratiquement exclusivement des femmes qui font ce métier-là. Elle a une fille d'un an avec sa compagne Lorraine, qui est, elle, professeure dans le secondaire de biologie, je crois. Et toutes deux font très attention à varier les vêtements, les jouets et les livres pour leur fille, à éviter les vêtements trop sexués. Et dans l'extrait ci-dessous, en fait, je lui ai demandé si elle pensait qu'elle agirait de la même manière avec un garçon. Alors évidemment, ça ne veut pas dire, c'est pas une vraie projection de ce qu'elle ferait en réalité, mais en tout cas, son opinion à elle sur si elle avait un garçon, elle me dit, c'est plus dans les vêtements, les trucs comme ça. Évidemment, c'est tellement mal vu que si on l'habille en rose, bah, on passerait pour des grosses tarées, quoi. On serait obligé d'être plus vigilante sur ce genre de choses. Donc là, on voit bien que ce qui transparaît, c'est le problème à ses yeux, il réside pas tant dans le fait de contrarier par l'environnement matériel mixte une identification sexuée, puisqu'elle elle souhaite ouvrir les possibilités pour ses enfants, a priori. Mais c'est bien dans la réception sociale de cette subversion qui met en cause en plus ses qualités et ses savoir-faire de mère. Les rappels à l'ordre hétérosexuel, ils existent pour tout le monde, les hétérosexuels comme les homosexuels, et encore plus quand il s'agit de sexuer les garçons. Ça, c'est des choses qui ont déjà été montrées. Mais les lesbiennes, elles risquent une disqualification plus forte, comme c'est exprimé ici. On passerait pour des grosses tarées. En fait, leur vigilance, elle doit s'appliquer à rester, au contraire, proche de certaines normes du genre, à ne pas s'en éloigner trop, d'une certaine manière. Alors, les normes de parentalité, elles sont en général mobilisées dans les discours, mobilisées par les mères interrogées, pour résoudre un conflit de valeurs. Par exemple, pour justifier certaines pratiques conformistes, les mères disent qu'elles s'en remettent au goût de l'enfant pour le choix des vêtements et des jouets quand ils arrivent à un certain âge. On lui demande... Et dans ces cas-là, donc s'en remettre au goût de l'enfant, c'est s'en remettre à une sorte d'idéal d'éducation démocratique. L'éducation démocratique, c'est un concept qui a été proposé par François de Senglis pour dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans des modes d'éducation autoritaires et verticaux, mais qu'on va plutôt être dans de la négociation, dans de l'explication aux enfants, etc. Donc elles s'en remettent à cet idéal d'éducation démocratique selon lequel les parents guident sans interdire. Il y a un moment dans l'âge des enfants où la socialisation entre pères à l'école, elle entre en concurrence avec celle du foyer. Et les stéréotypes de genre, elles s'introduisent dans la maison, en fait, par le biais des enfants. Dans plusieurs entretiens, les demandes par les enfants de jouets ou de vêtements stéréotypés, donc aspirateur pour une fille ou du rose à paillettes, c'est souvent quand même les jouets pour filles qui sont désapprouvés. Donc ces jouets-là, donc ils sont désapprouvés explicitement par les mères, mais on va combler quand même les demandes des enfants avec l'argument de respecter leur choix, leurs vœux. Donc c'est ce que dit Samia dans cet extrait. Alors Samia, elle est professeure agrégée et elle travaille dans l'enseignement supérieur. Et au moment de l'enquête, elle vient de réussir le concours d'entrée à l'ENA. Voilà. Donc pour vous dire quand je dis qu'elles sont très diplômées, je Donc elle nous dit, Manon, elle aime bien les trucs avec du rose, les filles, les princesses Disney et tout ça. On est catastrophés, mais on achète quand même. Rire. On respecte en gros leurs désirs, on essaie de glisser des trucs, mais bon, ça marche ou ça marche pas. Par exemple, on va dire, oh, tu pourrais prendre autre chose que le rose, etc. Mais bon, si ça marche, ça marche moyennement, en fait. Ben, Arthur, il aime tout ce qui est les ninjas, Superman, Spider-Man, plus tout ce qui est construction, la caricature, comme dans les magasins, filles et garçons, là, le truc hyper marqué. Donc nous, on est atterrés, on rigole en même temps, on se dit, merde, comment on a fait ? Alors, les mères qui disent avoir résisté aux jouets stéréotypés, puis céder devant la demande des enfants, elles sont assez nombreuses, et leur vocabulaire pour exprimer leurs émotions face à ces demandes qui vont à l'encontre de leurs convictions, il est très fort. Ça m'a fendu le cœur, on est atterrés. Et en même temps, l'excès de conformisme de leurs enfants, enfin là, elle dit qu'elle est atterrée, mais en fait, dans l'extrait, elle rit, c'est pas du tout des rires jaunes, elle rit franchement, quoi. De dire, merde, comment on a fait ? En fait, d'une certaine manière, le conformisme de leurs enfants les soulage, parce qu'elles les sentent mieux protégées comme ça. Donc dans la continuité de ce raisonnement, Il y a le cas de Antonia P. qui exprime son hésitation quand sa fille, âgée de 11 ans, a voulu faire du foot. Antonia P., elle est caméra-woman pour la télévision et des documentaires, des choses comme ça. Et elle est mère célibataire. Et sa fille, c'est une des enfants les plus âgés dans les familles que j'ai eu à interroger. Donc ça me donne aussi à voir des choses. La plupart avaient des enfants très petits. Donc là, sa fille a voulu faire du foot. Elle me dit, moi, je m'étais dit, j'interdirai rien. Donc éducation démocratique. Et même, tu vois, le foot où j'étais pas pour, parce que justement, je me dis, putain, une fille de lesbienne qui va faire du foot, c'est un peu lourd. Et j'en ai parlé avec ma copine qui m'a dit, mais non, laisse-la si elle aime le foot. J'ai dit, ok, t'as raison, je suis bête de l'empêcher de faire du foot parce que je suis lesbienne. C'est complètement idiot. Et donc voilà, elle fait du foot. Mais oui, je crois que c'est moi qui veux pas être dans la caricature. Donc on voit bien ici qu'il y a eu un conflit de valeurs. Et il y a eu un arbitrage assez complexe pour réussir à les hiérarchiser, grâce à l'approbation d'une tierce personne. Malgré un principe d'éducation démocratique, j'interdirai rien, la transgression des normes du genre que sa fille demande, donc pratiquer un sport qui est habituellement associé aux hommes et aux masculins, ça lui semble une demande excessive, parce qu'elle est une fille de lesbienne. Contrairement donc, au témoignage précédent de Samia, qui qualifiait de caricature ses enfants excessivement conformistes, la caricature réside ici dans l'excès de transgression. La fille de lesbienne qui fait du foot risque de conforter, voire de redoubler, le stigmate de la mère lesbienne. De sa place de mère, Antonia pense évaluer les risques sociaux de manière plus clairvoyante que son enfant. Elle cherche dans un premier temps à interdire la pratique du foot dans un objectif de protection. Elle dit que c'est un peu lourd. Et finalement, elle accède à la demande de sa fille et elle rit aujourd'hui de son premier mouvement en disant « Je suis bête de l'empêcher de faire du foot parce que je suis lesbienne. » Elle retourne en fin de compte l'argument, le fait d'être une mère lesbienne a failli coûter une liberté à sa fille parce que par un mécanisme d'hypercorrection, elle a momentanément voulu que sa fille reste dans la norme pour compenser sa propre transgression qu'il n'est vulnérabilise toutes les deux. Pour conclure, ce que je voulais montrer dans cette communication, c'est que le discours de normalisation, donc c'est bien le fait de s'appuyer sur les normes hétérosexuelles pour rendre lisibles les situations familiales, elle peut aussi être interprétée comme une stratégie de contrôle de ce qu'on donne à voir, de présentation de la famille. Par exemple, avancer la norme du couple ou celle de la famille nucléaire pour justifier une famille sans homme. La normalisation, ça ne suppose pas tant une adhésion idéologique au système du genre qu'une attention à en performer les normes. Donc la performativité, le fait de performer, ça c'est un concept de Judith Butler qui dit que le genre n'existe que dans des actions répétées. Il n'y a pas de genre qui serait en nous en tant qu'individu dans notre... dans notre esprit, ou dans, mais que c'est par des actions répétées que le genre existe, d'une certaine manière. Donc la norme, nous dit Judith Butler, gouverne l'intelligibilité sociale de l'action, mais elle n'est pas la même chose que l'action qu'elle gouverne. Elle poursuit, ça va être plus clair après. La norme gouverne l'intelligibilité, et permet à certains types de pratiques et d'actions de devenir reconnaissables en tant que telles, imposant une grille de lisibilité au niveau social et définissant les paramètres de ce qui apparaîtra ou non dans le domaine du social. Donc, en ce sens, on peut avancer que les mères lesbiennes interrogées, elles utilisent stratégiquement les normes du genre pour permettre l'intelligibilité sociale de leurs actions. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Cette intelligibilité, elle est pensée comme nécessaire à l'intégration sociale de la famille et de chaque individu qui la compose. Face à la virulence des discours homophobes au moment des débats publics sur le PACS et sur le mariage pour tous et toutes, ces discours ont prédit un dérèglement social majeur et l'apparition d'individus au comportement anomique, qui étaient donc les enfants élevés par des parents homosexuels. Les mouvements qui ont promu une égalité, enfin qui promeuvent l'égalité entre les sexualités et la reconnaissance des familles homoparentales, ces mouvements-là, donc d'appui aux familles homoparentales, ils ont peiné à faire entendre un discours alternatif. De dire, en fait, le changement social peut être bien, pour simplifier. Dans un tel contexte, le discours de normalisation des mères lesbiennes, il semble un véritable registre défensif. Il y a même une mère qui me dit « on est d'une banalité à pleurer en réalité » pour me décrire leur vie quotidienne. Et en fait, elle dit ça parce qu'il s'agit de rétablir une juste mesure face à la disproportion des attaques. Les familles lesboparentales, elles partagent les mêmes modes de vie que l'ensemble de la société, elles ne vivent pas de manière marginale et elles portent des projets politiques en général plutôt réformistes et rarement radicaux et révolutionnaires, mais il y en a quand même. Elles n'adhèrent pas pour autant au système qui les assujettit. J'avance alors que la normalisation, elle peut être interprétée comme une pratique de résistance ordinaire à la domination.